Nous sommes ce que nous mangeons. Si comme nous, vous pensez que notre alimentation peut changer le monde, vous êtes au bon endroit. Je suis Fanny Giansetto, cofondatrice et présidente d'Ecotable. Ecotable s'est donné pour mission d'accompagner le secteur de la restauration dans sa transition écologique en permettant aux restaurateurs de mesurer leur impact environnemental, de se former aux enjeux écologiques et de valoriser leur travail auprès du grand public. Dans ce podcast, j'explore les enjeux sociétaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. Je donne la parole à des experts, mais aussi à celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien, qu'ils soient restaurateurs, agriculteurs, entrepreneurs ou militants. La transition écologique ne se fera qu'avec le plus grand nombre. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à ce podcast, le noter et nous laisser un commentaire, suivre Ecotable sur les réseaux sociaux, mais surtout venir manger dans les restaurants Ecotable. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Après un épisode sur la pêche avec Charles Guiriec, fondateur de Poiscaille, nous nous intéressons aujourd'hui à un autre produit de la mer, les coquillages. En France, ce sont plus de 80 000 tonnes de coquillages qui sont consommées chaque année, notamment en période de fête où les huîtres sont considérées comme un mets de choix. Cela fait des Françaises et des Français les recordman et woman mondiales de la consommation de coquillages frais. Mais cette consommation est-elle sans risque pour l'environnement et pour la santé ? Les coquillages ont d'abord un rôle essentiel dans la dépollution des océans en tant qu'organisme filtreur. La conchyliculture, c'est-à-dire l'élevage de coquillages, s'est ainsi largement répandue en France pour garantir un environnement contrôlé et donc moins pollué. On estime aujourd'hui que sur 10 kg de moules, 7 sont issus de l'élevage et 3 de la pêche. Les huîtres vendues dans le commerce, quant à elles, viennent aujourd'hui toutes de l'ostréiculture. Mais en étant organisme filtreur, les coquillages accumulent aussi les polluants. Ils peuvent même être considérés comme impropres à la consommation car ils accumulent des métaux lourds tels que le cadmium, le plomb ou le mercure. Alors la conchyliculture est-elle vraiment la solution ? Quel est l'impact de notre consommation de coquillages sur la santé et l'environnement ? Pour en parler, je suis avec Augustin Maillard, responsable de l'approvisionnement et des relations avec les pêcheurs chez Poiscaille. Bonjour Augustin.
Bonjour Fanny.
Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ?
Eh ben, tu as dit pas mal de choses déjà. Donc effectivement, je travaille chez Poiscaille depuis 2017 et donc en charge des approvisionnements, des relations avec le réseau de pêcheurs avec qui on bosse. Juste pour rappeler rapidement ce qu'on fait chez Poiscaille, on est une version marine des paniers légumes. Donc on propose à des abonnés partout en France l'équivalent des paniers légumes en poisson, on appelle ça les casiers de la mer. Et on travaille pour ça avec un réseau d'environ 150 pêcheurs. Que des petits bateaux de moins de 12 mètres, pas d'art traînant, que des engins dits passifs, filets, lignes, plongées. Et on distribue en moins de 48 heures les produits aux abonnés partout en France, qui choisissent parmi donc la pêche du jour.
Je suis une de vos abonnées.
D'accord. Et donc, au sein de Poiscaille, donc effectivement, je m'occupe tous les jours, réveil 5h30, 6h du matin, je prends les infos de pêche auprès des pêcheurs et je leur prends du poisson tous les jours. Et puis, en plus de ça, il y a toute la partie relationnelle, c'est-à-dire fédérer le réseau autour de Poiscaille, qui est comme une AMAP, en fait, mais qui reste quand même une structure plutôt format poissonnerie.
Ouais.
Donc voilà ce que je fais au quotidien chez Poiscaille.
Et qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler chez Poiscaille?
Alors, Titi parisien, né à Paris, donc a priori pas de prédisposition à la pêche, peut-être de l'eau de mer dans le biberon quand j'étais petit, mais j'ai en fait découvert, je pense que pour pas mal de monde, c'est une histoire de grand-père. Moi, c'est une histoire de grand-père qui m'a appris la pêche quand j'étais petit. Donc, je suis tombé dans le grand bain. J'ai pêché ma première carpe à 5 ou 6 ans. Dans les classes au collège, puis au lycée, j'étais plus à dessiner des poissons sur mes cahiers plutôt qu'à écrire ce qu'il y avait au tableau. Donc, assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler dans les poissons en général, sans savoir exactement ce que j'allais pouvoir y faire. Et donc, je me suis dirigé vers une école d'agro qui est spécialisée là-dedans, qui a fait aussi Charles et pas mal de monde chez Poiscaille. On a pas mal d'alieutes, ingénieurs alieutes, c'est les ingénieurs agro, mais dans tout ce qui est mer, poisson, algues, pêche, aquaculture, tout
c'est
ce que tu
veux. C'est quoi le nom de cette école?
Agro Campus Ouest. Et cette école, donc, bon, je suis allé, j'en ai profité une fois que j'y étais pour faire le plus d'expériences possible dans la pêche, dans l'aquaculture. Et j'étais assez, à l'époque, j'avais le sentiment qu'il fallait absolument nourrir la planète, quel qu'en soit le coût. Alors, je sais pas si c'est un truc de ma génération ou si nos cours à l'époque nous envoyaient, nous emmenaient un petit peu vers cette logique un tout petit peu orientée production plus que environnement, on va dire. Et donc, en fait, j'ai eu pas mal d'expériences un peu traumatisantes, à la fois dans la pisciculture assez intensive, à terre, en mer, dans des pays très beaux. J'ai fait en Corse, j'ai fait en Charente, mais toujours dans des climats qui m'ont toujours un peu surpris. Et puis j'ai également fait une expérience à la pêche dans un gros armement industriel qui s'appelle l'Ascapêche, qui est l'armement d'Intermarché. À l'époque aussi, pareil, assez naïvement, j'y vais pour échantillonner ce qui est à bord des bateaux et tout ce qu'on rejette à bord des gros chalutiers de plus de 24 mètres. Je faisais des marées d'une douzaine de jours à chaque fois en mer celtique ou un peu plus haut. Et donc, au cours de ces expériences-là, j'ai à peu près mené pendant un an et demi de multiples expériences là-dedans. En fait, j'étais un peu perdu et un peu dégoûté par ma propre passion, on va dire. Je savais pas exactement ce que j'allais bien pouvoir y faire finalement à la sortie de l'école. Et c'est là que j'ai été hameçonné par Charles, que j'ai rencontré donc en 2017, où Poiscaille était encore un petit peu à ses prémices. On distribuait donc effectivement un peu de poisson encore au restaurant, ce qu'on fait plus aujourd'hui, à quelques abonnés. Je me souviens qu'à l'époque, on avait 400 abonnés. Aujourd'hui, on a plus de 12 000. Donc c'est plus du tout la même échelle, et je découvre donc Poiscaille. En plus, j'avais eu un petit peu vent de. Je me souviens quand j'étais à l'Ascapêche, on en avait parlé à l'Ascapêche, et d'après ce que j'entendais, les gens prenaient Poiscaille pour une entreprise de bobos qui envoyait du poisson vendu trois fois plus cher que son prix à Paris. Donc je suis arrivé avec un tout petit peu j'avais un peu cette appréhension, et en fait j'ai découvert l'idée de Charles, qui était absolument excellente là, l'idée de faire une AMAP orientée poisson, et surtout j'ai découvert complètement une autre facette de la pêche que je connaissais pas du tout. D'abord via les abonnés, parce que j'ai commencé à bosser en rencontrant tous les abonnés Poiscaille, en essayant de comprendre qui c'était. D'abord, c'était mon premier boulot chez Poiscaille, et en fait c'était bien loin des clichés que je m'en faisais. C'était hyper intéressant parce que j'ai rencontré des consommateurs de produits de la mer hyper alors parfois cultivés, parfois pas du tout, mais juste très curieux, voilà, de découvrir plein de produits, et les retours étaient dithyrambiques sur la qualité du poisson. Effectivement, moi, quand j'ai découvert la première fois la qualité du poisson qu'on recevait 48 heures après la pêche, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça ressemble au poisson que je pêche moi quand je vais en mer avec ma canne. Et donc assez vite, j'ai été hyper convaincu en fait par l'idée. Et donc quand Charles m'a proposé finalement de reprendre la partie appro qu'il faisait avant, donc la partie pêcheur, j'ai sauté dessus et j'ai embarqué sur les premiers bateaux du réseau Poiscaille. Pareil, là encore une fois, j'ai pris une claque. J'ai découvert mon premier bateau de moins de 10 mètres, où l'ambiance est totalement différente d'un chalutier. Voilà, c'est vraiment complètement différent. Ça rigole à bord. On fait attention les uns aux autres. Il n'y a pas cette difficulté, ce côté hyper hyper dur physiquement et moralement des campagnes de pêche longues là de 12 jours où tous les jours on rejette la moitié des poissons à la flotte, etc. Et donc quand j'ai découvert ça, en fait, c'était encore plus on va dire grappiné, quoi. Et donc aujourd'hui, voilà, on en est là à continuer à avancer un petit peu. Ça paraît hyper bizarre, on est complètement à contre-courant, on va dire, des tendances de consommation, où tout le monde nous dit les gens consomment de plus en plus du poisson transformé, préparé, sous vide, etc. Nous, on va complètement à l'inverse, on propose du poisson entier, hyper frais, et pourtant ça marche. Donc on sait pas trop où on va, mais a priori on y va.
Génial. Avant de continuer, enfin de plutôt d'approfondir cette thématique des coquillages, j'aimerais juste que tu nous dises ce qui t'a choqué justement sur ces chalutiers, sur cette découverte du milieu de la pêche. Ça a été quoi ton déclic de « ok, je veux pas travailler là-dedans » ?
Bon, mon premier déclic, je pense, c'est et là pareil, c'est ce que j'ai moi ressenti, c'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais quand j'ai découvert par exemple à l'Ascapêche les personnes qui travaillaient pour cette entreprise, et j'ai un peu découvert des personnes parfois un peu cyniques, c'est-à-dire des gens qui étaient, je pense, aussi passionnés de la mer et des poissons que moi, pour parfois même plus, mais qui, je pense, mettaient un peu une frontière entre leur travail et leur passion. Alors, ce qu'ils faisaient après 18 heures quand ils rentraient chez eux et qu'ils allaient à la pêche, et ce qu'ils faisaient entre 8 heures et 18 heures quand ils s'occupaient de tout ce qu'il faut faire à terre quoi, quand on s'occupe d'une flotte de 24 bateaux qui partent en mer sur des campagnes de 12 à 30 jours. Et à bord des bateaux, le premier truc qui m'a évidemment surpris, c'est la quantité de poissons qu'on peut rejeter en fait à la flotte, donc bien souvent morts, très grande majorité morts.
Qu'on appelle les prises accessoires.
Qu'on appelle les prises accessoires, qui peuvent être parfois gardées dans les cales du bateau parce que ça vaut un peu d'argent en crier, qui parfois sont rejetées, la plupart du temps sont rejetées. Moi, j'échantillonnais à l'époque, alors ça veut pas dire que sur une année entière, c'est... toujours cette statistique-là, mais 30% à peu près des prises, des captures qui étaient rejetées à la flotte. Ça, c'est le premier truc qui m'a...
Oui, donc c'est énorme, potentiellement.
C'est assez énorme. C'est assez énorme. Et d'ailleurs, l'Ifremer travaille pas mal sur cette question-là, quand même. C'est pas une question qui est laissée sur le côté. On sait très bien qu'un jour, c'est ce qui peut porter vraiment préjudice à la pêche au chalut, hein, évidemment. Et la deuxième chose, c'est vraiment l'ambiance à bord et les marins, on va dire. Donc, systématiquement, des gens extrêmement attachés. Ça c'est certain. J'ai rencontré des profils géniaux, mais toujours des gens, on va dire, vraiment le dénominateur commun, c'est la tristesse au travail, quoi. C'est-à-dire entre ceux qui sont parfois contraints, et c'est un secret pour personne, de prendre des substances pour tenir la difficulté du boulot et on va dire la longueur aussi des journées, parce que en fait tu as des rythmes où toutes les 4 heures tu es réveillé par une sonnette pour aller justement participer au virage du chalut, donc au tri des poissons dans le parc, etc. Et donc t'as des phases de sommeil de environ 2h30 4 fois par jour, quoi, pas plus. Ça déjà, ça crée une atmosphère assez délétère. Et puis la deuxième chose, c'est systématiquement leur discours, c'était la même chose, c'est-à-dire c'est des personnes qui vont te dire, en voyant que t'es un petit jeune qui est sur le bateau, ne fais jamais ce métier, quoi. Enfin, c'est pas un métier pour toi, quoi. Ouais. À la fois, je pense pour la vie de famille à terre, et à la fois même pour, on va dire le bonheur au travail, quoi. Voilà, c'est ça.
Assez effrayant. Pour revenir à nos moutons des coquillages, le but de ce podcast, c'est vraiment de décrypter notre consommation de coquillages de manière plus particulière. Pourquoi on dit que les coquillages sont des organismes filtreurs ? Comment ça fonctionne concrètement ?
Alors dans coquillage, je pense que toi tu pars directement sur bivalve. Okay. On en oublie une alors je sais pas si on appelle ça une classe, ça je sais pas bien, j'ai trop vite arrêté la partie phylogénétique là, donc toute la partie science dure, on va dire, ouais. des grandes familles de d'organismes vivants. Mais disons que en fait tu as deux grandes familles. Déjà on va dire que les coquillages sont des mollusques, et dans les mollusques il y a, on va dire, trois grandes familles. Il y a les céphalopodes qui sont les poules, et les calamars qu'on connaît.
Qu'on met dans les coquillages ?
Non, qu'on met pas dans les coquillages, mais on va dire que les coquillages sont des mollusques, et les deux autres grandes familles qui sont souvent appelées coquillages parce qu'ils ont une coquille, tout simplement, c'est donc les gastéropodes, qui sont aussi bien les escargots à terre, mais aussi les bulots, les bigorneaux, les ormeaux en mer, et puis il y a également les bivalves, donc toi auquel tu penses, je pense, et du coup c'est ceux-là sont bivalves parce que deux valves qui s'ouvrent, comme la coquille Saint-Jacques, l'huître, la moule, la coque, sont systématiquement deux valves qui s'ouvrent, et eux effectivement sont à 99%, je pense pas me tromper, sont des filtreurs.
D'accord.
Certains sont des brouteurs, on va dire.
Comme lesquels ?
Alors je connais pas cette famille. J'ai déjà entendu. En fait, il y a quand on fait l'histoire, on va dire naturelle, on essaie de trouver toujours des ancêtres communs, et a priori on dit que l'ancêtre commun du bivalve n'était pas filtreur. Il avait une trompe, en fait, avec une ce qu'on appelle une radula, donc une espèce de langue qui va râper. Et puis il était ce qu'on dit détritivore, comme les bulots, c'est-à-dire qu'il va prendre tout ce qui est en suspension dans l'eau, tout ce qui traîne, tout ce qui est un peu en pourriture, et les autres bivalves sont quasiment tous des filtreurs, donc comme la coquille Saint-Jacques, en fait ils inhalent de l'eau, et avec leurs branchies ils gardent à la fois l'oxygène et puis toute la bouffe, quoi, donc le plancton, les micro-organismes, des bactéries, tout ce qui peut passer dans l'eau. Voilà.
Ce qui veut dire que quand on dit que ces organismes sont filtreurs et donc notamment intègrent des matériaux lourds, en fait, c'est pas vrai de façon générale pour tous les coquillages.
C'est pas forcément vrai quand tu dis métaux lourds.
Quand je parle de pollution, oui, ouais, du coquillage en tant que tel, les coquillages sont plus ou moins pollués suivant qu'ils sont filtreurs ou pas.
Exactement. Et comme tu disais qu'ils étaient filtreurs et que c'est quand même des petits organismes, en fait, effectivement, ils filtrent tout ce qui se passe dans l'eau, donc des métaux lourds, tout ce que tu veux, des pesticides, tout ce qui est de pire qu'on peut trouver dans la flotte. Mais ils la rejettent aussi.
Ouais.
Alors, à la différence des poissons, on parle souvent du saumon parce que souvent les métaux lourds et pas mal de substances qui sont toxiques, comme les PCB qui sont sur les coques des bateaux, en fait ils sont stockés. Et à un moment ils sont stockés dans le gras. Et les poissons les plus gras souvent sont les plus touchés. Et souvent poisson, on parle du hareng, du saumon ou de la sardine par exemple, ou du thon. Voilà.
La sardine alors qu'elle est petite stocke.
Ouais, mais elle est très grasse. Donc en fait, elle va à son échelle, elle peut stocker pas mal de matières toxiques comme celle-là. Finalement, le coquillage, lui, il va effectivement inhaler des substances qui peuvent être toxiques, mais il va aussi les rejeter au bout d'un moment. C'est pour ça que souvent les coquillages, on en parlera juste après, je pense, mais les coquillages, il y a souvent des périodes où on les consomme pas parce que l'analyse de l'eau montre qu'il y a des substances, des phytoplanctons qui sont toxiques. Et puis, au bout d'un moment, l'interdiction est levée puisque finalement, la substance ne se retrouve plus dans l'eau, donc a priori plus dans les coquillages.
Ok, donc tu veux dire que ce que je nous ai dit en introduction n'est pas tout à fait vrai, qui est que en réalité, ces coquillages ne sont pas plus pollués que les poissons.
Non, je pense pas me tromper si je dis qu'ils sont pas plus pollués.
Ok.
Ouais. Je pense qu'ils sont juste sentinelles. Ils montrent qu'il y a une pollution dans l'eau.
C'est hyper intéressant parce que déjà très rassurant parce que ça veut dire qu'on peut quand même manger des coquillages et que ce n'est pas grave si on est les plus gros consommateurs de coquillages du monde. Et en plus, par contre, que leur intérêt principal, c'est donc leur rôle pour l'écosystème marin.
Ouais.
Et là, leur rôle est quand même différent du coup s'ils sont soit bivalves, soit j'ai oublié le.
Donc soit les gastéropodes.
Les gastéropodes. Est-ce qu'ils ont tous les deux Est-ce que les gastéropodes ont aussi un rôle pour l'environnement et l'écosystème marin?
Tous les organismes vivants, du plus petit qui fait un micron à l'énorme thon rouge, sont forcément importants dans l'écosystème marin, sans doute. Les bivalves, ils ont une fonction qui est assez particulière, c'est qu'on va dire qu'ils sont en début de chaîne alimentaire. On dit chaîne trophique, c'est-à-dire que ils vont plutôt avoir tendance à consommer des substances qui sont toutes petites. Donc quand je dis substances toutes petites, c'est en gros le plancton. Des bactéries, des micro-organismes, etc. Et donc ça, c'est souvent ce qu'on appelle la production primaire. La production primaire, c'est la production de plancton, en fait. C'est les plus petits organismes qu'on trouve dans l'eau. Donc ils sont en début de chaîne. Ça veut dire qu'ils ont aussi automatiquement quasiment tous des prédateurs. Voilà, qui sont au-dessus sur la chaîne alimentaire. Donc ça va être les céphalopodes, les poulpes, etc. Ils peuvent manger des coquillages. Typiquement, le poulpe, il affectionne particulièrement la coquille Saint-Jacques. Voilà.
C'est vrai.
Donc voilà ce qu'on peut dire sur le rôle écosystémique des coquillages. Après, donc je te disais, a priori les gastéropodes sont plutôt des charognards. Dans le temps, on disait que les casiers pour pêcher le bulot étaient appâtés à la tête de mouton. C'est pour ça qu'il a pas une. Je pense qu'il a gardé aujourd'hui cette mauvaise image auprès de certains consommateurs parce qu'en fait, effectivement, lui c'est vraiment un charognard. Il prend tout ce qui traîne dans l'eau, ce qui peut pourrir, et donc de la viande aussi bien que des végétaux. Et puis bien sûr, les bivalves, eux, mais en fait ils filtrent tout ce qui se passe dans l'eau. Ils filtrent. C'est pour ça que généralement en hiver, quand il y a moins de soleil et que l'eau est plus froide, il y a moins de production primaire, il y a moins de plancton, donc souvent ils se nourrissent ils sont beaucoup plus maigres, voilà, ils ont moins de nourriture en fait, tout simplement. Et par contre, dès le début de l'été, nous on aime bien parler des huîtres de printemps chez Poiscaille, c'est les huîtres qui commencent à s'alimenter avec plein de plancton. Là, elles prennent en goût, elles prennent en chair, donc voilà, elles se musclent. Et là, ça fait des huîtres qui sont plus charnues, tout simplement.
Même si on n'est pas dans des mois en R.
Voilà, et après on parlera des mois en R les mois en R, justement, ce sont les mois pendant lesquels on peut les consommer, et les mois qui sont pas en R, donc le mois de juillet, mois d'août, mois de juin, sont les mois où elles commencent à se reproduire, voilà, les mois où elles sont laiteuses.
Mais donc on est quand même au début des printemps, donc par rapport à ce que tu disais.
Voilà, ça arrive assez vite en fait. Hein, tout se passe en un rien de temps, c'est-à-dire qu'à partir du mois de mars, avril, s'il commence à faire beau, les coquillages prennent vachement en chair.
D'accord.
Puis petit à petit, toutes les espèces vont commencer à se reproduire à partir d'avril. et jusqu'à l'huître qui va être un peu la dernière quelque part à se reproduire. Mais donc il faut les consommer assez vite si on veut les consommer avant la reproduction. Puis après, en septembre, en octobre, en novembre, on peut y aller sans problème.
Et si on reste sur l'aspect santé, du coup, est-ce qu'il y a une différence du coup entre ces coquillages détritivores et les coquillages filtreurs? C'est vrai que dans l'imaginaire, j'imagine que si on se dit qu'un bulot mange tout ce qui passe, bah de fait, il doit aussi manger peut-être des choses plus ou moins toxiques. Est-ce qu'il y a une différence pour nous entre consommer une huître et consommer un bulot?
Alors, la différence, c'est que le bulot n'étant pas filtreur, si tu veux, tu vas pas retrouver autant de flotte tout simplement dans le coquillage. Souvent, quand, je sais pas si t'as ouvert un coquillage cru, quand tu l'ouvres, il y a vraiment beaucoup de flotte qui tombe, hein, parce qu'il y a de l'eau de mer dedans. C'est pour ça que souvent on dit que l'huître, typiquement, elle a aussi beaucoup le goût de l'eau dans laquelle elle se trouve.
Ouais.
Donc, selon qu'elle se trouve dans telle aber, dans telle ria, dans telle baie, elle va avoir un goût complètement différent. Mmh. Souvent, on parle des huîtres de marraine parce qu'elles sont dans les clairs à marraine dans laquelle on trouve un plancton particulier qui s'appelle la navicule bleue, qui lui donne une couleur un peu particulière et qui, a priori, donne aussi un goût particulier. Et donc, forcément, donc les bivalves, eux, on va aussi retrouver dans leur goût le goût de l'eau, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau dedans.
D'accord.
Le bulot, c'est beaucoup plus du muscle. Pour le coup, on mange un muscle, en fait, entier. Donc, effectivement, la toxicité n'est pas la même. En tout cas, j'ai jamais entendu parler pour le bulot, à ma connaissance, j'ai jamais entendu parler d'une période où on a fermé la pêche du bulot parce que...
Parce que
l'eau était polluée par une substance en particulier.
Je te pose cette question parce qu'on en a déjà parlé dans ce podcast, dans un épisode sur que peut-on manger à Noël, où j'avais invité une chercheuse autour de la table et qui m'avait raconté une histoire que tu connais peut-être, où on s'est rendu compte que les coquillages pouvaient être toxiques parce que un poisson se nourrissait de coquillages et qui s'est mis à avoir des comportements complètement incohérents, notamment ne plus nourrir les petits, et on s'est rendu compte qu'il avait été en fait contaminé aux pesticides qu'il y avait dans ce coquillage.
Ça me paraît assez logique, puisque de toute façon, c'est comme les parasites. Les parasites, généralement, c'est assez intéressant. J'ai fait un peu de parasitologie quand j'ai fait un stage en Nouvelle-Zélande où j'ai beaucoup pêché, mais j'ai aussi un peu travaillé, mais quand même surtout pêché. Mais au cours de mon projet de recherche, j'ai essayé d'étudier certains parasites qui passent d'hôte en hôte et qui changent de forme en fonction des hôtes dans lesquels ils se trouvent. Et souvent, en fait, ils se retrouvent dans un coquillage qui est mangé par un poisson. Là, ils se transforment en une forme un peu intermédiaire, et puis ensuite ils sont mangés par un espadon ou par je sais pas quoi, un requin. Et puis ils se transforment en forme adulte, et quand le poisson relâche les excréments, le parasite pond dans les excréments et les excréments sont à nouveau utilisés comme alimentation pour toute la partie les coquillages, tout ce qui se trouve sur le fond. Et donc ça fait un cycle en fait, tout simplement. Et ça, c'est super intéressant pour à la fois étudier la chaîne trophique et comment en fait on passe un parasite qui est en soi une substance qui peut être toxique pour l'homme, et ça peut aussi être le cas pour des substances toxiques comme des métaux lourds ou des pesticides ou autres. Donc en fait ça m'étonne pas. Je pense qu'on doit pouvoir découvrir plein de choses par les réseaux trophiques. Et notamment justement ce que je te dis là, toute la partie parasitologie. Un exemple précis, par exemple, c'est l'anisakis, qui est un des parasites les plus redoutés en France. C'est un ver tout petit, enfin qui peut être visible à l'œil nu, hein, mais qui peut être aussi complètement invisible quand il est sous forme larvaire. Et on le trouvait à une époque dans une partie très restreinte de l'écosystème, souvent des poissons en haut de la chaîne alimentaire, et souvent des poissons qui étaient ce qu'on appelle démersaux, donc proches du fond. Donc le merlu était le poisson le plus parasité par l'anisakis, c'est connu. Quand on ouvre un merlu, il y a toujours plein d'anisakis partout, et on trouve l'anisakis de façon de plus en plus éparse dans la chaîne trophique. Voilà. Aussi bien maintenant, on peut le trouver dans des poissons qui se retrouvent à la surface de l'eau, donc des pélagiques. Donc, on peut aussi bien le trouver dans des chinchards, dans des maquereaux, que au fond là où ils se trouvaient à l'époque. Ce qui prouve peut-être que, tout simplement, les réseaux trophiques se sont simplifiés, surpêche allant avec. Le merlu, il est passé d'une consommation où avant il ne mangeait, par exemple, que de la sardine et du maquereau, et maintenant il consomme d'autres proies de façon plus simple. Et du coup, le parasite se répand plus facilement dans la chaîne alimentaire.
Ok, intéressant. Puisque tu parles justement de surpêche, je voudrais justement évoquer ce sujet de la pêche des coquillages. Il y a deux choses qui m'interrogent par rapport à cette question-là. La première, c'est que souvent donc les coquillages sont élevés. Contrairement aux poissons, vu que la pisciculture a de plus en plus de pourcentage, en tout cas dans ce qu'on mange, mais de manière générale, la pêche, disons, d'élevage est plutôt décriée, ce qui n'est pas le cas pour les coquillages. Comment on explique cette différence entre pêche d'élevage, élevage pour poissons plutôt, pardon, extrêmement décrié, et coquillage élevé, pas décrié?
Le grand plus de la conchyliculture, on appelle ça la conchyliculture. Après, il y a plein de sous-branches, la mytiliculture pour les moules, l'ostriculture pour les huîtres, etc. Par rapport à la pisciculture, qui est l'élevage des poissons, c'est que la conchyliculture, a priori, t'as pas besoin d'intrants. En fait, la ressource, elle est déjà dans l'eau, c'est-à-dire tout ce dont se nourrissent les coquillages est déjà dans la flotte, voilà, les phytoplanctons, pour citer que. Et donc forcément, ça permet à la conchyliculture d'être beaucoup plus vertueuse que la pisciculture. Le grand mal de la pisciculture aujourd'hui, en tout cas en Europe, si on prend le modèle barre dorade, saumon, maigre, enfin voilà, c'est 4 ou 5 espèces les plus élevées en Europe, ce sont tous qu'on pourrait comparer à des mangeurs de lions dans la savane, c'est-à-dire vraiment du top de la chaîne trophique, quoi, vraiment tout en haut, qui consomment tous les poissons qui sont quasiment dans la flotte. Et donc eux, ils ont besoin d'énormément de protéines. Donc on connaît ça, la pêche minotière, c'est la pêche des petits poissons qu'on réduit en farine pour nourrir les poissons d'élevage. La conchyliculture, elle en a pas besoin. Quand tu mets des tables à huîtres, il suffit de trouver une baie relativement abritée dans laquelle tu peux travailler toute l'année, un endroit quand même relativement productif en phytoplancton pour que les mollusques, du coup, les coquillages puissent pousser. Mais à part ça, en fait, t'as pas forcément besoin de beaucoup plus. Donc finalement, les impacts, faut les chercher autre part. Après, une fois qu'on a dit qu'en gros, globalement, le modèle de la conchyliculture est plus vertueux, on n'a pas tout dit parce qu'après, il faut rentrer un petit peu dans les détails et on se rend compte qu'on va lever des lièvres au fur et à mesure. Bon, pour l'huître, on va en parler juste après, je pense, mais la triploïdie. Oui. Mais également, globalement, dans l'élevage des coquillages, c'est vrai pour les moules de bouchot, donc les grands pieux qu'on trouve en baie du Mont-Saint-Michel, par exemple, ou les huîtres sur table. En fait, c'est calé sur les strands, c'est calé dans les sédiments, et souvent, bah, ça empêche, on va dire, ça bloque une partie de l'hydrodynamisme, et donc ça peut provoquer l'envasement, petit à petit, l'envasement des baies. Donc ça peut être un impact quand même de la conchyliculture sur les écosystèmes, et on peut pas juste l'écarter.
Donc ça voudrait dire qu'il faudrait privilégier quand même les coquillages sauvages par rapport aux coquillages d'élevage. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Alors pas automatiquement. Notre logique typiquement chez Poiscaï, c'est d'essayer de chercher dans ce qui existe en conchyliculture, qu'est-ce qui peut être de moins impactant forcément sur les milieux et sur les écosystèmes. Et typiquement, on a deux coquillages qui sont les plus produits en France, qui sont vraiment notre savoir-faire et à la fois ce qu'on exporte énormément dans les pays voisins et ce qu'on consomme aussi le plus en France, c'est l'huître et la moule, l'huître en première, la moule en deuxième. La moule, elle est très majoritairement élevée sur des pieux, donc sur les bouchots, ce dont je te parlais tout à l'heure. Et les bouchots, eux, donc, sont plantés dans des baies. La problématique avec les bouchots, c'est que généralement, il y en a donc des dizaines, pour pas dire des centaines, successives plantées sur l'estran, et ça peut provoquer une rupture de l'hydrodynamisme, donc du sens du courant, à la fois quand la marée vient et repart, et aussi dans les rias, dans les rivières. Et donc, ça peut provoquer petit à petit l'envasement, en fait, tout simplement des bordures. Et donc ça a un impact non négligeable quand même sur les écosystèmes. Nous, on a trouvé une super alternative aux moules de bouchot, c'est les moules de corde. On a trouvé deux mytiliculteurs, un au large de l'île de Groix, un en baie de Lannion à Locquémo. Le gros avantage de la moule de corde, c'est que là, on est sur des moules qui sont élevées sur des ossières. Donc, les ossières sont elles-mêmes accrochées à des corps morts, donc elles sont en pleine mer.
Ça veut dire qu'on pose des moules sur les cordes?
C'est ça. Elles s'accrochent sur des cordes. Les moules, elles sécrètent ce qu'on appelle le byssus. C'est une petite barbe et ça leur permet de, ça bouge une moule en fait, donc ça leur permet à la fois de se déplacer très lentement, mais ça leur permet surtout de s'agripper en fait, voilà, de se fixer à un substrat, ici une corde, et voilà, et quand on découvre ces filières là, donc ce qu'on appelle ces filières, donc ces moules de corde, on voit effectivement qu'en fait donc il y a pas d'impact sur les fonds, ça c'est super intéressant. Il y a toujours cette concentration de coquillages d'élevage qui est un petit peu surdimensionné par rapport à l'état sauvage, mais ça, on va dire que c'est un impact, on va dire relativement faible quand même. Alors, je pense qu'il y a une grosse consommation de phytoplancton à cet endroit-là. Je pense que ça attire aussi des prédateurs, voilà, de façon très concentrée. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, voilà, on a quasiment tout dit, voilà. Et en plus, ces moules-là, elles ont un super intérêt, c'est que comme elles sont souvent en pleine mer, elles sont jamais hors de l'eau, donc elles poussent hyper vite. Voilà. Donc elles sont souvent très charnues. Et une fois, donc voilà, ça c'est pour les moules. Les huîtres, on les élève majoritairement sur des tables en France. Et l'impact des tables, il est à peu près le même que l'impact des bouchots, c'est-à-dire que les tables sont posées sur l'estran. Là aussi, il peut y avoir envasement. Et nous, les ostréiculteurs avec qui on travaille, ils ont effectivement, ils ont cette sensibilité-là. Ce qu'ils essayent de faire, moi j'en parlais justement à Tiffaine hier, Tiffaine ostréicultrice dans la Ria d'Etel, elle essaie d'espacer ses tables de façon à ce que entre chaque rangée de tables, il puisse y avoir le passage d'un chaland. Donc ça permet de pas avoir un embouteillage de tables massif à un endroit en particulier, et donc à l'eau quand même de passer, et donc d'éviter au maximum cet envasement. Et en plus, et ça on l'a vu, moi je l'ai vu aussi quand j'ai fait des journées d'ostréiculture avec d'autres ostréiculteurs du réseau, typiquement Jean-François Roux qui est à Andernos, les tables elles sont régulièrement retirées, on essaie de nettoyer, etc., pour pas laisser une trace trop longtemps sur l'estran. Donc ça permet quand même de limiter au maximum l'impact.
Ok, mais en tout cas, on est d'accord que sur la partie huître, aujourd'hui, on ne mange pas d'huîtres sauvages.
Si, on peut dire qu'on mange des huîtres sauvages, c'est quand on consomme des huîtres plates.
Ah.
Huîtres plates, Ostrea edulis, c'est l'huître native des eaux bretonnes. Et cette huître-là, on la produisait à l'époque, puisqu'on peut quand même la produire à l'époque. Enfin, la grande technique d'élevage d'huîtres plates, c'est à terre, tout simplement, sur la vase. Et on la produisait pendant toutes les années 50, jusqu'à ce qu'on commence à concentrer les huîtres plates sur le littoral français. À l'époque, c'était marrant parce que c'était inversé par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on produit de l'huître creuse qui est captée en Charente. Et donc, les Bretons sont dépendants des Charentais pour avoir des naissins, donc des petites huîtres creuses. Et à l'époque, c'était l'inverse. Les Vendéens, les Charentais, les Normands étaient dépendants des Bretons pour avoir les naissins d'huîtres plates. Puisque elles se reproduisent surtout dans la rivière de Belon en Bretagne et donc on la trouve là. Aujourd'hui, elle est quasiment plus présente. Je crois qu'il y a une production 10 fois inférieure aux années 1960 ou 70 en huîtres plates. Elle a pris 2 parasites. Comme je te disais, elle a été vachement concentrée sur le littoral. On a aussi mélangé l'huître plate bretonne avec de l'huître plate a priori d'Adriatique. Et les parasites ont flingué petit à petit les huîtres de l'huître plate du littoral. Et on a fait venir une huître creuse portugaise à ce moment-là. Qui elle était présente au Portugal depuis a priori le 16e ou le 17e siècle, qui s'est accrochée sur un bateau il y avait beaucoup d'échanges commerciaux entre France et Portugal et qui a priori est arrivée par bateau et petit à petit disséminée sur tout le littoral. Elle aussi a été flinguée pareil. On pense que systématiquement la cause c'est d'abord une concentration énorme d'huîtres sur le littoral. Quand on commence à produire énormément, ça concentre, et donc l'eau étant un vecteur de transmission de maladies encore plus puissant que l'air, mais dès qu'il y a un parasite, dès qu'il y a une bactérie, dès qu'il y a ce que tu veux, un virus, en fait il se répand très rapidement sur le littoral. Donc cette première huître creuse, en fait, assez rapidement elle a été flinguée. Et là, on a fait venir de l'huître creuse japonaise, qu'on a fait venir vraiment à dessein pour relancer la filière ostréicole française. Et c'est celle-là qu'on consomme aujourd'hui en majorité. Donc l'huître plate, pour répondre à ta question, excuse-moi, c'est donc de l'huître sauvage, Nous, on en a un petit peu chez Poiscaille, pêché en plongée par Tommy, que tout le monde connaît aujourd'hui, Tommy Journeau, qui pêche la Saint-Jacques. Et on en a aussi un petit peu qui est ramassé au pied des parcs, justement dans la Ria d'Etel, par Tiffaine et Jean-Yvon. Et pour eux, c'est le trésor, quoi. C'est l'or de la Ria d'Etel. C'est vraiment l'huître native. Elle a un goût complètement différent. Et évidemment, effectivement, il y a une approche complètement différente. C'est pas du tout les mêmes volumes. Voilà, c'est un peu un repas de fête pour les Bretons.
Et d'un point de vue santé, il y a une différence. J'ai toujours entendu dire qu'il fallait faire attention à consommer les coquillages que l'on pêchait soi-même, justement parce qu'ils pouvaient être contaminés quand ils sont organismes filtreurs.
Ouais, alors là, je pense qu'on peut dériver un petit peu du coup sur les coques, les palourdes, ouais, les bivalves de pêche à pied, qu'on a tous fait un petit peu. Enfin, si on a eu la chance d'aller en vacances dans la baie de Somme ou au Croisic, je sais pas où, on pêche les coques à pied. Il y a de la pêche professionnelle et puis il y a surtout beaucoup de pêche amateur.
Ouais.
Pour la pêche professionnelle, il y a l'obligation de purifier les coquillages au minimum 48 heures avant la commercialisation, justement pour les vider quelque part de toutes les substances, toute la concentration de substances toxiques qu'il peut y avoir dedans.
Comment on fait pour les purifier ?
Les purifier, on les met dans une eau qui est neutre ou très pure, voilà, et qu'on fait tourner, donc c'est dans des bassins à terre. Et en fait, ils se lavent. Comme je te disais, c'est des filtreurs, donc en 48 heures, ils se sont
complètement.
Et ça permet aussi de dessabler les coquillages. Nous, généralement, quand on les pêche, on suit les directives préfectorales. Et les directives préfectorales, elles nous disent si à telle période on peut y aller ou si on peut pas y aller.
D'accord.
Par contre, bien souvent, je sais pas si il y en a qui ont pêché des coquillages à pied, mais il faut les faire dessabler quand même.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut les laisser un petit peu dans des seaux et les retourner pendant souvent 24 heures pour vraiment leur retirer une grosse partie du sable.
Ce qui permettra aussi de les détoxifier et donc il n'y aurait pas vraiment de danger dans ce cas-là à les consommer.
Oui, sauf que la purification, elle est à l'échelle professionnelle, elle est faite en bonne et due forme, c'est-à-dire que l'eau est purifiée, etc. Là, on la met dans un seau. Mais donc voilà, effectivement, aujourd'hui, la pêche à pied est quand même très réglementée. Il y a un organisme qui fait des prélèvements d'eau à plusieurs points du littoral en France, des centaines de points, et tous les jours. Ou tous les deux ou trois jours et, dès qu'en fait il y a dès qu'on voit l'augmentation d'une substance en particulier toxique, eh bien on ferme la pêche, voilà. Il y a souvent un arrêt préfectoral, enfin la pêche est fermée. Par exemple, en ce moment on parle du dinophysis. Le dinophysis, c'est un phytoplancton qu'on trouve de plus en plus régulièrement tous les chaque été, chaque fin de printemps, début d'été, c'est rebelote. Il y a le dinophysis qui apparaît. Voilà, c'est un microplancton qui est naturellement présent dans l'eau, mais quand il est en concentration très importante dans les coquillages, ben tout simplement nous on le digère pas très bien. Donc il y a rien de très dangereux, mais on le digère pas bien, et donc souvent interdiction de vendre et de consommer des coquillages pendant cette période-là jusqu'à ce que le dinophysis disparaisse. Et il y en a qui sont plus emmerdants. Dernièrement, on a eu le pseudonychia. Alors je crois que c'est une neurotoxine. Il a des neurotoxines. Donc ça, c'est vraiment, je crois, emmerdant. Je suis pas médecin, donc je n'irai pas au-delà. Mais celle-ci, on est particulièrement vigilant là-dessus. On la trouvait pas trop sur le littoral, en tout cas breton, jusqu'à maintenant. Et pour la première fois cette année, on l'a trouvée, tu vois, en baie de Lannion. Donc preuve que ça peut changer.
Interdite.
Voilà, la vente de moules et la pêche de coquillages a été interdite.
Et donc c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que vraiment dans ce cas-là, les coquillages ont un rôle de sentinelle, c'est-à-dire que en les analysant, on sait immédiatement si l'eau est polluée ou pas. Quoi.
Exactement, et on voit tout.
Ok, ça peut conduire à même interdire de se baigner ?
Non, je pense pas. Faut pas boire la tasse. Mais...
On n'a pas encore parlé de saisonnalité. On a commencé à en parler un peu avec les mois en R. Est-ce que, alors, je sais que chez Poiscaille, vous avez une position un peu divergente.
Contre-courant.
Contre-courant sur la saisonnalité des poissons. Peut-être tu peux déjà nous rappeler cette position et répondre à ma question qui est-ce que donc on a une saisonnalité pour les coquillages?
Ouais, alors bon, sans aller trop loin, après je vous inviterai éventuellement, si vous voulez avoir les détails, on a écrit un article de blog sur le site poiscaille.fr à ce propos, pour la saisonnalité des poissons en tout cas.
Et Charles en parle dans le podcast.
Voilà, donc je pense que, et pas forcément besoin d'aller plus loin, mais simplement que nous, chez Poiscaille, on s'arrête pas simplement à la notion de saisonnalité. Les poissons côtiers, puisque nous on parle de petite pêche chez Poiscaille, des bateaux de moins de 12 mètres qui vont pas loin, on peut trouver... la plupart des espèces quasiment tous les jours de l'année dans l'eau. Voilà, bizarrement, on ne sait pas pourquoi, mais il peut y avoir des macros en plein mois de février qui se retrouvent en baie de Camaret ou en baie de Douarnenez. Et si les pêcheurs ont calé leur filet ou si ils sont en train de pêcher la ligne dedans, eh ben ils en capturent. C'est pas pour autant qu'on va dire c'est pas la saison du macro, on n'en consomme pas. Voilà, je pense que donc simplement on ne s'arrête pas à la notion de saisonnalité, on essaie d'aller un petit peu au-delà. Et
tu veux comprendre... dire qu'à partir du moment où le poisson de toute façon est pêché, il vaut mieux le consommer.
C'est ça. Et après, si on rentre un peu dans tout ce qui est, enfin, il y a un débat un peu plus houleux sur quand est-ce que les poissons se reproduisent. Et pour les poissons qui sont très ciblés, qui sont parfois à la limite de la surexploitation, on considère, certains pêcheurs et certains consommateurs considèrent qu'il vaut mieux éviter de les capturer au moment où ils se reproduisent. Sauf que ça marche pas tout à fait comme ça. Les poissons font tellement d'œufs. Et en fait, la probabilité d'avoir un bon recrutement, c'est-à-dire un bon nombre de petits poissons l'année suivante, est tellement plus dépendant des conditions dans lesquelles vont se développer les larves, vont se développer les petits poissons, les alevins, ce qu'on appelle les alevins, que du nombre d'œufs qui sont déposés sur le fond, qu'en fait, la partie reproduction, donc le nombre de reproducteurs qu'il y a dans l'eau, est très anecdotique. Très anecdotique, en tout cas dans un premier temps, tant qu'il y a encore un stock dans un relativement bon état. Une fois qu'il est dans un état vraiment catastrophique, effectivement, là on dit qu'il faut protéger les reproducteurs parce qu'il y en a trop peu.
Mmh, voilà. Je comprends. Et pour les coquillages ?
Pour les coquillages, c'est là on peut parler de saisonnalité parce que il y a une période de reproduction et pendant la reproduction, c'est tout simplement que souvent ils sont laiteux, voilà. Donc ils ont développé leur gonade.
Mais ça, ça vaut pour les huttes, mais ça vaut pour d'autres?
Ça vaut pour d'autres. Bon, la Saint-Jacques, on connaît la gonade, je sais pas si tout le monde fait le rapprochement, mais en fait, c'est la partie orange. Mmh. Voilà.
Corail.
Voilà, ce corail là, c'est la gonade, c'est l'organe reproducteur, et souvent, il commence à se développer à partir du début du printemps. Donc selon les baies, il apparaît pas au même moment, il est pas aussi massif. En baie de Saint-Malo par exemple, on est toujours très surpris, mais il est encore très petit, peu développé encore à la fin de la saison, donc au mois d'avril. Alors que en baie de Seine, il va être déjà très développé en mars, quoi. Il va être déjà énorme. Bon, ça c'est des conditions, je pense, de milieu et peut-être aussi des sous génétiques qui font que dans les autres bivalves, les huîtres sont effectivement laiteuses pour les huîtres naturelles. Et les coques, les palourdes, vont aussi être laiteuses au bout d'un moment. Donc, quand elles vont être... Les moules aussi. Hein, et quand elles vont être laiteuses, elles vont vraiment larguer quelque chose couleur lait, voilà, qui sont en fait la laitance, donc les spermatozoïdes, les ovules. Et il va y avoir reproduction dans le milieu. Et juste après la reproduction, ils sont très maigres. Puisque ils ont quelques semaines avant, ils ont alloué beaucoup leur énergie à... développer en fait leurs organes reproducteurs, puis ensuite ils ont tout largué, donc ils sont très maigres en fait. Et souvent là, si on consomme des coques en ce moment, on reste quand même vigilant. Il y a des endroits où elles ont déjà délété il y a quelques semaines, donc elles commencent à reprendre un petit peu en chair. Il y a des endroits où elles viennent de le faire il y a quelques jours, et là vraiment on a un tout petit mollusque à l'intérieur de la coquille, quoi. Oui, vraiment quelque chose de minuscule.
C'est pas intéressant.
C'est pas intéressant au niveau gustatif. Un restaurant va dire, mais qu'est-ce que c'est ça, quoi. Voilà. Mmh. Et puis un particulier, enfin, je veux dire, un consommateur lambda qui s'y connaît en tout cas va dire la même chose.
D'accord.
Et ce serait dommage de décevoir, surtout que en fait, quelques semaines plus tard, souvent le coquillage a repris en chair puisque c'est aussi une période où ils se nourrissent énormément.
Et d'un point de vue environnemental, est-ce que c'est problématique de consommer les coquillages à ce moment-là?
Au moment où ils sont laiteux, non.
Il n'y a pas de problème derrière. Quel est le stock des coquillages aujourd'hui?
Alors, donc on écarte huîtres pour le moment parce que les huîtres plates, ça reste anecdotique. Les huîtres creuses, il en existe des effectivement naturellement présentes sur les rochers, mais je suis pas sûr qu'il y ait une analyse du stock qui soit très précise sur les huîtres creuses. Si on pense au stock vraiment sauvage, on pense aux coques, aux palourdes, et si on creuse un petit peu, on va toucher aux télines.
Au bulot aussi, non?
Voilà, au bulot, etc. Certains stocks sont vraiment gérés baie par baie, c'est-à-dire que je prends l'exemple de la Baule, du gisement de la Baule, de coque de la Baule. Celui-là fait un peu figure d'exemple dans la filière de la pêche à pied. Souvent, ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui sont regroupés en comité des pêches, qui eux-mêmes estiment chaque année, en gros, la quantité de ressources disponibles. Et donc, une fois qu'ils ont estimé la quantité de ressources, ils savent combien ils vont pouvoir pêcher toute l'année, ou en tout cas durant la saison d'ouverture. Voilà. Et en fait, que le coquillage soit en train de se reproduire ou qu'il soit après ou avant, ça change rien. On retire un coquillage sur tout ce qui est disponible dans la baie. Et donc chaque baie finalement a un peu son outil de gestion. Certains sont un peu catastrophiques et souvent il y a des pêcheries qui ferment ou qui sont en tout cas dans un très mauvais état où la pêche n'est plus rentable parce qu'on pêche plus assez quand c'est mal géré. Et quand c'est très bien géré, eh bien il y a de la ressource disponible et donc les licences sont très compliquées à avoir. Les pêcheurs à pied essaient de conserver à tout prix leurs licences. Mmh. L'exemple de la Baule, il est assez intéressant parce que pendant plusieurs années ça a été un peu catastrophique et ils se sont serrés la ceinture, ils ont arrêté de pêcher pendant 5 ou 6 ans. Mais tous les pêcheurs à pied, sachant que ça allait porter ses fruits, ont vraiment gardé leur licence, alors qu'ils auraient pu les vendre. Voilà, ils auraient pu les vendre. Ils l'ont gardé, sachant que dès que ça allait reprendre, eh bien en fait, le gisement serait en bon état.
D'accord.
Donc c'est intéressant.
On arrive quand même à bien gérer le stock des coquillages.
Donc voilà, le coquillage, on peut considérer qu'on peut y aller. Après, il y a l'exemple de la moule. Et la moule, c'est un peu plus complexe. Parce qu'il y a la moule sauvage, donc il y a la moule d'élevage, mais il y a aussi la moule sauvage. Il existe plusieurs espèces de moules, on va pas rentrer dans les détails. Deux grandes espèces, en l'occurrence, une du nord, une du sud. Et typiquement, un pêcheur à pied avec qui on bosse s'appelle Jean-Philippe Gallas, et pêcheur à pied de coq, mais aussi, il y a quelques années encore, pêcheur à pied de moule sauvage. Et depuis quelques années, en fait, il constate qu'il y a plus de moules à pêcher. C'est-à-dire qu'il y a plus rien, il y a plus de stock disponible. Et c'est vrai sur sa zone de pêche qui est le Croisic. C'est vrai également sur la côte d'Opale où il y a encore des pêcheurs professionnels de moules sauvages. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le milieu? Il y a plusieurs hypothèses. L'une des hypothèses de Jean-Philippe, c'est que ces moules sauvages là au Croisic sécrètent moins de byssus qu'avant. Est-ce que c'est parce que dans l'eau, il y a un manque en micro-éléments qui font que les moules peuvent sécréter leur byssus et du coup, elles le sécrètent moins? Et ce qui fait que chaque année, ils voient que au moment où les petites larves se fixent, donc en mars, il y a du naissin, donc des toutes petites moules qui sont sur les rochers. Et puis, dès qu'il y a un premier coup de vent, généralement, il y en a un fin mars et là, il y en a eu tout le mois de mai, et ben les moules se décrochent. Et donc, il n'y a plus de moules disponibles, plus de moules adultes à pêcher quelques mois plus tard.
D'accord.
On sait pas exactement. Voilà, ça c'est plein de choses qui restent à creuser et c'est
scientifiquement on n'a pas un état.
Scientifiquement, je connais pas d'études encore poussées et fiables là-dessus. Donc il reste tant de choses à découvrir là-dessus. Mmh.
Mais là tu nous parles pas des coquilles Saint-Jacques pour lesquelles il y a des quotas, il me semble.
Voilà.
Pourquoi ?
Coquille Saint-Jacques, donc bon exemple. Je pense qu'on peut parler de bon exemple pour à l'échelle française. Premier coquillage de pêche en France. Autant la moule et l'huître sont plus produites à hauteur de plus de 50 000 tonnes par an pour les deux. Autant l'huître, c'est une production de plutôt de 30-35 000 tonnes, il me semble, à l'échelle française. Mais en tout cas, c'est une production qui est extrêmement bien gérée. On va prendre l'exemple de la baie de Saint-Brieuc. En baie de Saint-Brieuc, il y a 180 bateaux qui pêchent 7-8 mois dans l'année, pas plus, et qui pêchent 2 jours par semaine, 45 minutes par jour.
Voilà. Là, tu nous parles de la coquille Saint-Jacques parce que t'as dit la moule.
La coquille Saint-Jacques, excuse-moi. La coquille Saint-Jacques. Donc la coquille Saint-Jacques est hyper bien gérée à la fois en effort de pêche, donc en temps de pêche, en ce qu'on appelle l'effort, et aussi bien en quota. Voilà. Donc les quotas, c'est 400 kilos par bateau. Pardon, c'est une tonne 2 par bateau par
mais,
jour.
Mais on a mis des quotas parce qu'à un moment, justement, le stock de coquilles était descendu trop bas.
Voilà, il y a eu des années noires pour la coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc. Il y a des années noires en ce moment pour la coquille Saint-Jacques de la baie de Quiberon. Voilà.
D'accord.
Donc, c'est comme je te disais pour les coques. Comme généralement, il y a un outil de gestion qui est différent par baie. Il est plus ou moins poussé et il est plus ou moins performant.
Et est-ce que la coquille Saint-Jacques s'élève aussi? Il y a des élevages en France de coquille Saint-Jacques?
On n'élève pas la coquille Saint-Jacques. Par contre, il existe des réensemencements. Donc, je sais que pour booster au début le stock de la baie de Saint-Brieuc, on a réensemencé. Donc, ça paraît, c'est les comités des pêches, les pêcheurs eux-mêmes hein, qui mettent la main à la poche pour payer un réensemencement des petites Saint-Jacques.
Voilà. Alors, j'avais entendu quand même que à une époque, on pouvait consommer des coquilles Saint-Jacques importées. D'élevage, c'est possible, hein, notamment d'Amérique latine.
Gros problème, c'est que il y a un décret qui date de 95 qui doit être concerté avec des pays tiers, les États-Unis, les Canada en l'occurrence, et qui dit qu'en gros, on peut appeler noix de Saint-Jacques tous les pectinidés, donc tous les coquillages de la famille, la famille de la Saint-Jacques. Ah. Donc la pétoncle, par exemple.
D'accord.
Ou d'autres Saint-Jacques, d'autres espèces. La Saint-Jacques canadienne, la Saint-Jacques du Chili, la Saint-Jacques américaine. Et donc, c'est pour ça que pendant longtemps, enfin, toujours aujourd'hui, on trouve, et aujourd'hui on se méfie un petit peu, c'est pour ça qu'on demande systématiquement de regarder le nom latin sur les produits qu'on achète. On trouve noix de Saint-Jacques, mais pas Pecten Maximus, qui est la Saint-Jacques européenne, mais une autre Saint-Jacques, voilà, ou une pétoncle ou autre. Et donc, typiquement, je sais pas s'il existe de l'élevage de pétoncle, potentiellement, au Canada ou ailleurs, mais s'il en existe, c'est pour ça qu'on peut trouver de la noix de Saint-Jacques, d'élevage, je sais pas moi, surgelée,
oui, voilà, surgelée,
en surface.
D'accord.
Voilà. C'est pour ça qu'on considère, nous, chez Poiscaille, que si vous êtes en supermarché ou en poissonnerie, vous voulez consommer de la Saint-Jacques, première chose, Pecten Maximus, quoi. Pecten Maximus, là, il y a une obligation de donner le nom latin. Et là, si jamais on appelle une Pecten Maximus une pétoncle, bah là, il y a un délit, quoi. Mm. Donc normalement, on peut faire confiance au Pecten Maximus. Et une fois qu'on a fait confiance au Pecten Maximus, bah, idéalement, on regarde si c'est pêché en plongée ou à la drague.
Ouais, c'était justement ma question suivante. Contrairement aux autres coquillages, il me semble, mais peut-être que je me trompe, tu vas nous le dire, la coquille Saint-Jacques peut poser problème au regard de sa méthode de pêche. Donc tu vas nous expliquer ce qu'est la différence entre la pêche de plongée et la pêche à la drague, mais nous, typiquement, chez Écotable, on ne recommande pas cette méthode de pêche. Quel est ton avis, toi ? Alors, et peut-être explique déjà ce que c'est que la drague et son potentiel impact.
Donc la drague, il en existe plusieurs sortes. La drague à bivalve, la drague à Saint-Jacques, c'est comme un chalut. Donc c'est un râteau qu'on traîne sur le fond avec des dents qui plongent d'une dizaine, voire plus de centimètres dans le sable ou en tout cas dans les sédiments qui se trouvent au fond. Et en fait, ça va tout simplement en fait lever les coquillages qui vont se retrouver dans un espèce de chalut derrière dans une poche métallique, et on relève, on fait des traits de drague. Alors j'ai jamais embarqué sur un dragueur, donc là pareil, je vais pas dire trop de bêtises, mais on fait des traits, on fait généralement entre 1 et 4 traits par journée de pêche en baie de Saint-Brieuc, donc 45 minutes de pêche. Ça peut être soit un grand trait si on est sur un endroit qui est très concentré en Saint-Jacques, soit ça peut être 3-4 traits sur des endroits où les Saint-Jacques sont plus éparses, etc. Et donc c'est souvent des traits qui font une quinzaine, une vingtaine de minutes, souvent. Voilà. Et donc on traîne cet engin-là sur le fond. Et après, il existe une autre forme de drague, qui est la drague hydraulique. Et là, pour le coup, la drague hydraulique, c'est plus une pompe. C'est utilisé pour pêcher notamment les couteaux. Donc pareil, les couteaux, produits assez à la mode
coquillages aujourd'hui, aussi.
Voilà, coquillages qu'on consomme, j'ai l'impression de plus en plus, hein, même un peu dans les restos. Mais il faut savoir qu'une grosse partie des couteaux sont pêchés en Écosse à la drague hydraulique, qui est donc une espèce de pompe qui va carrément pomper une partie du sédiment.
Ah oui.
Et puis ensuite, on va aller récupérer les couteaux qui sont à quelques centimètres en dessous du sable.
Mais dans les deux cas, quand même, on racle le fond, et donc ça a un impact assez fort sur le milieu marin.
C'est un impact fort. En tout cas, nous, chez Poiscaille, on est mal à l'aise de proposer un produit où on sait très bien qu'un engin qui est traîné sur le fond, qui pèse plusieurs tonnes, c'est pas anodin, en fait. Tout simplement, c'est pas anodin. Les scientifiques, aujourd'hui, on n'a pas quelque chose de très poussé, encore une fois, sur l'impact du chalut ou de la drague. Ce qu'on sait, c'est que ça peut provoquer l'homogénéisation du fond, c'est-à-dire le fait que au lieu de trouver une diversité à la fois de coraux, de cailloux, d'algues, etc., bah tout va être homogénéisé comme si on était sur une parcelle de terre et que tous les jours on mettait un coup de râteau. Bah,
donc au bout on d'un va moment, perdre on trouve, en biodiversité.
On peut perdre en biodiversité. Peut-être que pour la Saint-Jacques, ça convient. Mais probablement que pour du lieu jaune, du bar, que pour de la sèche, probablement que l'impact il est pas anodin sur l'habitat. Voilà. Et nous, donc chez Poiscaille, automatiquement, on travaille plutôt avec des plongeurs. Et ça, c'est assez intéressant parce que l'histoire de la plongée, elle est quand même très récente. Elle est née à Saint-Malo d'abord, et puis ensuite elle est arrivée à Saint-Brieuc. On espère qu'elle va arriver au Glénan, puis peut-être même en baie de Somme.
Donc c'est des pêcheurs qui ont pris conscience de l'impact de la drague et qui ont cherché à faire autrement.
Et pardon, je disais en bête, c'est en bête scène. L'impact de la drague, je sais pas. Je pense qu'on a toujours su que c'était impactant. Aujourd'hui, on se méfie moins parce que après tout, on va dire que économiquement, la pêche à la drague en France, c'est une réussite, quoi. Je reprenais l'exemple de la baie de Saint-Brieuc, 180 bateaux, pas un de plus, pas un de moins, mais tous, en travaillant 8 mois dans l'année, ils gagnent leur croûte en travaillant 2 jours par semaine, en faisant des 45 minutes de pêche, quoi. Alors, ouais. C'est extrêmement, on va dire que pour l'humain, c'est extrêmement stressant. On travaille, dans la précipitation. On a souvent les funes, qui sont les câbles, qui permettent de tracter la drague à quelques centimètres de la tempe. Enfin, c'est extrêmement dangereux. Il y a vraiment un danger de mort et il y a des accidents chaque année. Ça, c'est clair. Mais économiquement, ça marche, ça fonctionne. Et quand je dis économiquement, c'est aussi forcément la ressource qui, elle, semble pérenne. Donc ça, c'est forcément une réussite de ce point de vue-là pour la coquille Saint-Jacques. Après, si on parle de tous ceux qui travaillent dans la baie de Saint-Brieuc, au filet, au casier ou avec d'autres engins, bah, potentiellement, ils ont vu que depuis 10, 20, 30 ans, les captures ont diminué sur les espèces qui ciblent eux. Parce que l'impact de la drague sur le fond, peut-être que pour la Saint-Jacques, il est, on va dire, anecdotique, mais pour les autres espèces, il l'est pas.
Ouais, bien sûr.
Et donc, bon, les plongeurs, je sais pas s'ils y sont allés pour ça. Les anciens plongeurs, je pense, étaient des plongeurs amateurs. Il existait depuis déjà plusieurs années des licences de plongée à Lormeau. Voilà. Ça, parce que Lormeau, on le pêche pas autrement qu'en plongée ou à pied. Et donc, il y avait quelques dizaines de licences de plongée en Bretagne, avec un peu des champions, des gars qui pêchent Lormeau et qui les vendent très bien à des restaurants. Finalement, ces plongeurs aux ormeaux, certains des plongeurs aux ormeaux ont été les premiers plongeurs à la Saint-Jacques, quoi. Parce qu'il y avait déjà la technique, il y avait déjà quelque part parfois les spots de pêche. Et donc, ils sont allés tracter sur les pontons en 2012-2013 pour obtenir des licences de plongée auprès des dragueurs, etc., auprès des comités des pêches. Ça n'a pas été simple. Et aujourd'hui, on en est à 10 licences de plongée en baie de Saint-Brieuc pour la Saint-Jacques.
Ah oui, c'est pas beaucoup.
C'est rien.
En effet. Et vous, ça vous permet quand même d'avoir une quantité suffisante pour les vendre sur Poiscaï?
Nous, Poiscaï, on est petit encore, mais on voit qu'à notre échelle, aussi bien autant avant, on travaillait avec, donc on a le Tommy et Laurent ont été les premiers avec qui on a travaillé sur pour la Saint-Jacques. On a assez vite réussi. C'est un peu notre but chez Poiscaï, c'est d'intégrer le plus de pêcheurs au fur et à mesure qu'on prend des abonnés pour proposer des prix fixes et élevés au plus de pêcheurs possible, au plus de pêcheurs vertueux possible. Et assez vite, on a intégré Victor Coutin et son équipe qui lui pêche uniquement en baie de Saint-Brieuc, alors que Tommy et Laurent pêchent en baie de Saint-Malo, en Rance et en baie de Saint-Brieuc. Et là, on a accueilli cette année Julien, qui est notre petit dernier, qui lui pêchait sur l'archipel des Minquiers, donc une zone qui a été fermée à cause du Brexit, donc il s'est replié sur la baie de Saint-Malo. Mais donc on a déjà finalement 3 pêcheurs parmi la douzaine qui existe.
Et qu'est-ce qui explique qu'il y en ait si peu? Est-ce que c'est parce qu'il y a un lobby de la pêche à la drague? Qu'est-ce qui explique qu'on ait si peu de pêcheurs?
Oui, l'inertie du milieu, probablement. Mmh. De même que comment on explique qu'aujourd'hui on cible encore le poisson majoritairement en volume, hein, au chalut,
ouais.
Alors que c'est l'engin le moins rentable économiquement.
Et le plus destructeur.
Et probablement, sûrement, quand je dis probablement, c'est parce que j'ai pas envie d'être à charge gratuitement, mais probablement le plus destructeur. Donc, alors que certains ligneurs sont beaucoup plus rentables, et même si on retaxait le carburant, ils le seraient encore, ce qui est pas le cas des chalutiers.
Donc, pourquoi les chalutiers sont pas rentables?
Parce que trop de dépenses en carburant.
Ah ok, voilà. C'est un bateau qui nécessite énormément.
Mais énormément, puisque il est tout le temps en mouvement, tout le temps en train de tracter un engin de plusieurs tonnes au fond.
Ah oui, bien sûr.
Ce qui n'est pas le cas des ligneurs.
D'accord. Voilà. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Je voudrais parler de l'impact du réchauffement climatique sur les coquillages. On a une étude sur les 50 dernières années qui montre que les infections à Vibrio notamment sont liées à l'augmentation des températures et que donc en tout cas on a un impact significatif sur les coquillages d'un côté et l'augmentation potentielle des températures dans la mer. Est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir y a un risque pour les coquillages et que peut-être les manger en tout cas crus va devenir une pratique risqué?
Ah, si tu me permets, je fais un petit crochet vers l'huître, à mon avis, qui peut être le meilleur exemple pour parler de ça dans un second temps. Juste pour expliquer un petit peu ce que c'est que la triploïdie et d'où elle vient et pourquoi elle est apparue.
Ouais, avec un plaisir.
Alors donc, l'huître au départ, uniquement captée en Charente et Arcachon, qui sont des zones de captage. Pareil, pour qui, pourquoi? Les courants, la température, c'est des zones qui sont hyper prolifiques en captage. Il existe du captage en Bretagne, je sais pas où, dans les abers bretons, il en existe, mais tellement anecdotique que finalement, poser des collecteurs pour les ostréiculteurs là-bas, c'est pas intéressant. Donc tout le monde va capter en Charente et va produire ses huîtres en Normandie, en Bretagne, à Tau, où tu veux.
Ça veut dire quoi, attends, capter du coup?
Capter, ça veut dire on pose des collecteurs. La première forme de vie qui émane de la reproduction des coquillages, des huîtres en l'occurrence, c'est une larve. Et la larve, elle se fixe quelque part, et quand elle se fixe, elle commence à pousser. Et là, elle commence à faire une coquille, et ce qu'on appelle un essaim, c'est une toute petite huître, vraiment une huître miniature. Et quand on dit qu'on capte, on pose un collecteur, souvent des matériaux en chaud, et on les pose à des endroits où il y a les courants sont propices. Et bon, une bonne année, il y a énormément d'huîtres qui se posent, de petites huîtres. Et une bonne mauvaise année, elles sont pas passées par là, ou la reproduction n'a pas été bonne, et on en trouve moins.
D'accord, et ensuite on la déplace.
On la décolle, on la met dans des poches, et on commence à l'élever. Et avant l'apparition de la triploïdie, la filière ostréicole française était dépendante du captage. Une année bonne, une année moins bonne, une année très bonne, deux années moins bonnes, voilà. Et donc, c'était en dents de scie. Et comme toute filière, je pense, elle a suivi un petit peu la dynamique des filières agricoles, c'est-à-dire un besoin de lisser, voilà, d'avoir une production homogène et aussi homogène en termes génétiques. Donc, on est arrivé assez rapidement sur un organisme dont on avait besoin, enfin, sur lequel on avait besoin d'avoir plusieurs garanties. Une garantie de croissance, une garantie qu'elle n'allait pas être laiteuse l'été, et puis une garantie d'en avoir suffisamment chaque année pour les produire sur les parcs. Donc des raisons plutôt économiques. Alors, ça a fait un boom, ça a favorisé l'installation de plein d'ostréiculteurs. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont enrichis avec ça. Mais donc, il y a un brevet qui a été déposé ou peut-être récupéré de l'Ifremer par des Américains, qui est le brevet, en gros, de la création de la triploïdie, qui est le même pour la truite ou pour l'huître. C'est-à-dire qu'on...
La truite est triploïde. Ah.
La truite d'élevage est triploïde systématiquement. Beaucoup de légumes de fruits ou légumes qu'on mange sans pépins sont triploïdes. C'est simplement d'avoir trois chromosomes au lieu de deux, et ça fait que le coquillage, il se reproduit pas. Voilà. Et donc, la première manière, ce premier brevet, le protocole, c'était on induit un choc de température et de pression, donc une température très élevée, une pression très élevée, et bim, le coquillage, il duplique un de ses chromosomes, et il a trois chromosomes, il devient infécond. Voilà. Aujourd'hui, il existe d'autres méthodes. Et surtout, en fait, ce brevet de l'Ifremer, il est tombé dans le domaine public, il a été récupéré par des écloseurs. Et aujourd'hui, c'est plus l'Ifremer qui vend les huîtres triploïdes aux ostréiculteurs, ce sont des acteurs privés qu'on appelle les écloseurs, qui chaque année, leur rôle, c'est de faire de la production de naissins d'huîtres qu'ils vendent partout en Europe, en France et en Europe.
Et alors, quel est le problème avec les huîtres triploïdes?
Le problème avec les huîtres triploïdes, c'est, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt un problème de métamorphose du métier. C'est-à-dire que, je te prends un exemple, toujours le même exemple, Tiffaine et Jean-Noël, Ria Detel, qui sont eux qui adhèrent au mouvement Slow Food pour les huîtres, c'est-à-dire un mouvement qui promeut l'idée qu'on laisse le temps aux organismes de pousser, on essaie de travailler en harmonie avec la nature, et on n'est pas dans une course contre la montre pour la croissance des coquillages et pour la productivité. Et donc eux, ils n'élèvent que des huîtres nées en mer, qui mettent 3 ans à pousser, puisqu'elles sont laiteuses 3 fois dans leur vie. Tous les étés, elles sont laiteuses, elles arrêtent quasiment de pousser, elles maigrissent et puis elles reprennent en chair. Donc elles perdent beaucoup de temps de production, de croissance, par rapport aux huîtres triploïdes qui ne se reproduisent jamais. Les huîtres triploïdes, généralement, c'est plutôt en 2 ans. Et les huîtres triploïdes, je pense que ça a été une manne dans laquelle se sont engouffrés beaucoup d'ostréiculteurs pour produire plus et plus vite, pour avoir plus de rentabilité. Ça a simplement fait, je pense, le premier impact, simplement qu'il y a eu beaucoup plus d'huîtres produits sur le littoral. Et donc, qui dit, comme je disais tout à l'heure, plus de concentration, dit, au moment où il y a des maladies qui apparaissent, eh ben, en fait, très rapidement, tout le littoral est touché. Et là, ça a été le cas. 2 maladies, un herpès virus et une bactérie, qui ont très rapidement flingué. Il y avait jusqu'à les années noires, là, des années 2015, 2013, 2015, je crois. C'est 2007-2008, ces années noires, où il y a, je crois, 70% des naissins de quasiment tous les ostréiculteurs de France qui meurent. Donc, les petites huîtres meurent.
Donc, on peut complètement faire le parallèle avec l'industrialisation des semences qui les a rendues plus sensibles et aux différences de température et au gel, mais aussi aux maladies, et donc nécessite plus de pesticides derrière.
Effectivement, parce que la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a inventé la triploïdie, on a aussi inventé quelque part la sélection génétique. Et donc, on va choisir les huîtres qui se ressemblent le plus génétiquement possible pour avoir des huîtres qui poussent très bien. On pourrait tout à fait aussi dire, demain, on pourrait tout à fait aussi dire, par contre, maintenant, on sait qu'elles sont sensibles, on veut les huîtres qui résistent le mieux, qui sont les plus immunisées. Donc, en tout cas, on va toujours pousser vers quelques allèles, quelques gènes qui permettent d'avoir les meilleures performances possibles là où on les cherche. Mais ça, finalement, ça crée de l'homogénéité génétique. Et qui dit homogénéité génétique dit, il y a une qui canne, tout le monde canne à côté.
Et puis perte de biodiversité.
Et perte de biodiversité. Et donc, a priori, ce qu'on a assez vite constaté, enfin, ce que Jean-Noël et Tiffany ont constaté, ce que les rooks ont constaté aussi, ce que la plupart des ostréiculteurs avec qui on bosse ont constaté, c'est que le fait qu'ils avaient encore des huîtres naturelles n'empêchait pas, au stade de petites huîtres, d'avoir autant de mortalité que les autres ostréiculteurs. Mais par contre, une fois adultes, elle était beaucoup plus résistante parce qu'elle avait de la diversité génétique. Et aujourd'hui, maintenant que le temps est passé, ce 70% de mortalité, il est passé à 30%. Mais c'est toujours là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ostréiculteurs sont habitués à ce qu'il y ait 30% chaque année les naissins qui meurent.
Dans les non-triploïdes ou dans les triploïdes?
Dans toutes les huîtres qui existent. Okay. Donc, je voulais parler de ça parce que ça va dans le sens d'une intensification quand même de production. Là, c'est la filière ostréicole, mais on pourrait très bien parler un jour de la filière de mytiliculture, donc des moules, ou d'une filière de pêche. Et quand on va dans ce sens-là, généralement, eh bien, en fait, on parie de plus en plus gros. C'est-à-dire que, eh ben, chaque année, on va de plus en plus loin, et le jour où il y a un truc qui va pas, le jour où on maîtrise plus un des éléments, bah, badaboum, quoi. Et là, ça peut être toute la filière qui plonge, quoi, avec. Donc
le réchauffement climatique, du coup.
Donc le réchauffement climatique en fait partie. Je demandais à Tiffany hier, pour elle, quel était le futur désirable de l'ostréiculture. Pour elle, c'était un retour à la raison. C'est-à-dire de dire, OK, on prend le contre-exemple des Gilardeaux, qui lui veut une huître homogène chaque année. On ne vend pas une huître pour son goût, on vend une huître pour son taux de chair et parce qu'elle est stable. D'accord. Chaque année et le mois d'août on peut la consommer également. Et peu importe que l'huître elle ait voyagé entre la Normandie, l'Irlande avant d'arriver chez lui. Et peu importe qu'elle ait passé 3 mois dans ses clairs ou 6 mois. Ce que défendent beaucoup les Yvon, c'est des huîtres qui sont attachées à un miroir, qui ne bougent pas en fait, avec comme tu disais de la diversité génétique, donc plus de résilience. Voilà, des huîtres qui, si l'eau prend 1, 2, 3 degrés, comme on pense que ça va arriver d'ici 30 ans, eh bien, peut-être qu'elles survivront, ces huîtres-là. Contrairement à des huîtres qui sont nées en laboratoire, sur lesquelles on a sélectionné génétiquement sur certaines facettes, mais on n'a pas du tout pris en compte, effectivement, comme tu dis, réchauffement climatique, donc, je sais pas moi, le manque d'oxygène dans l'eau, par exemple, ça on pourrait en parler. Donc, des conditions d'anoxie dans lesquelles peuvent se trouver les coquillages, ou la température de l'eau.
C'est passionnant ce que tu dis, parce que le parallèle avec les semences paysannes paraît alors flagrant sur la résilience au réchauffement climatique, aux maladies de manière générale. Est-ce qu'on peut aussi se faire ce parallèle par rapport à l'intérêt nutritionnel de l'huître? C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que la standardisation des semences a entraîné une perte de nutriments qui est équivalent à peu près à x10 par rapport à une semence paysanne. Est-ce qu'une huître non triploïde a un intérêt gustatif et nutritionnel par rapport à une huître triploïde?
Elle en a pas moins, selon moi. Ce serait mauvais joueur de dire qu'elle en a moins. Je pense que la différence, elle se fait sur une huître qui voyage par rapport à une huître qui voyage pas. Et je te disais tout à l'heure, l'idée de miroir, je pense que c'est pas simplement un truc à sortir en dîner mondain, le miroir, machin, équivalent du terroir pour la mer. Il y a vraiment un truc, je te disais que quand on consommait des coquillages crus, souvent on a le goût de la mer, le goût de l'eau, donc c'est souvent très iodé, etc. Salé aussi, salé, iodé. Et ça, c'est parce que l'huître, elle est restée dans son milieu pendant 1, 2, 3 ans. Et moins elle reste longtemps dans son milieu, ou plus elle est déplacée de milieu en milieu, plus le goût il est dilué finalement. Tu vas avoir une huître qui est née en Charente, qui va aller en Normandie, puis en Irlande, puis qui va revenir en éclair en Charente. Qu'est-ce que tu comprends au goût quelque part? Par rapport à une huître, je dis bien par rapport à une huître qui est née en mer, qui a été élevée pendant 3 ans dans la ria d'Etel, avec les propriétés qui sont propres à la ria d'Etel, donc une eau tantôt douce quand il y a beaucoup de pluie, tantôt salée quand il y en a peu, qui est changeante, mais qui a aussi un goût particulier de qui est propre au microcosme, au micro-élément qu'on trouve dans l'arrière des tels.
Et dernière question sur l'huître, c'est quoi une huître de pleine mer par rapport à quoi on l'oppose
Huîtres de pleine mer. Alors, il y a plein de, on peut classer les huîtres en plein de catégories selon leur taux de chair, selon l'endroit dans lequel on les élève. Mais une huître de pleine mer, je crois qu'elle fait référence à une huître qui n'est pas élevée, ce qu'on dit à terre, c'est-à-dire soit dans une claire, soit encastrée dans une baie ou dans une ria. Voilà. Et donc, une huître de pleine mer, elle serait sur des parcs qui sont vraiment dans l'océan, quoi. Voilà.
Mais une huître de pleine mer peut être triploïde?
Une huître de pleine mer peut être triploïde, ça change
rien.
Ah,
ok, d'accord.
Voilà.
D'accord.
La triploïdie, aujourd'hui, pas d'obligation de le spécifier quand on vend les huîtres. Et ça a été souvent demandé par une partie des ostréiculteurs et une partie de la filière, et retoqué, je sais plus si c'est à l'Assemblée nationale, enfin porté par des députés, et retoqué peut-être au Sénat. Je crois que c'est retoqué au Sénat.
Voilà. Ouais. Ça m'amène à la question qui sera ma dernière question, des critères à prendre en compte pour nos auditeurs et nos auditrices sur comment choisir des bons coquillages. C'est quoi les critères aujourd'hui à prendre en compte pour toi?
Le premier critère, à mon avis, à prendre en compte, c'est l'import par rapport à la production nationale, enfin ce qu'on sait faire en France. Je trouve dommage systématiquement quand on sait que en France on produit des palourdes qui sont vendues quasiment toute l'année sur le marché espagnol parce que les Espagnols sont très friands de produits de la mer et que nos palourdes, la plupart des bivalves qu'on produit sont réputées. Je trouve dommage de savoir qu'on les vend là-bas et qu'au même moment on consomme des palourdes elles-mêmes pêchées en Espagne. Et idem pour les moules, qu'on consomme des moules de Hollande à des moments où nous-mêmes, on sait faire des moules. Alors effectivement, on consomme souvent des moules en France plutôt à partir de juin, puisque la plupart sont élevés sur des bouchots et que c'est une espèce qui se reproduit au mois de mai et au début du mois de juin, donc faut les consommer après. Mais une fois qu'on a écarté ça, en fait, on sait faire des moules, on en produit. Et dommage d'aller en consommer qui vient de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de kilomètres. Donc ça, c'est pour moi, c'est la première chose, c'est savoir si c'est produit en France. Voilà, si c'est pêché, produit en France. Deuxième chose, à mon avis, de savoir comment c'est produit. Donc pour les moules, pour les huîtres, vous pouvez très bien demander à votre poissonnier ou si vous achetez directement un ostréiculteur sur le marché. C'est pas une. Je pense que il peut prendre mal la question, mais c'est une question que vous êtes en droit de poser si elle est triploïde ou naturelle. Le débat mérite d'être ouvert et aussi bien vous allez être surpris, l'ostréiculteur va dire mais moi je fais que des naturels, là où vous pensiez qu'il y avait que des huîtres triploïdes. Ça m'est déjà arrivé. Et puis pour la pêche, bah plutôt privilégier pêche à pied, pêche en plongée, pêche au casier pour le bulot ou pour les bigorneaux. Ou en plongée pour le couteau, par exemple,
pêche à la drague. Et par rapport à ça, justement, est-ce qu'il y a des coquillages sur lesquels on est sûr que c'est pêché à pied ou en casier, donc on peut un peu fermer les yeux et savoir que ces coquillages, on peut toujours les manger, en tout cas quand ils viennent de France, alors que d'autres sur lesquels il faut faire attention?
Coque palourde, j'aurais tendance à dire bulot, on y va un peu en fermant les yeux.
Bigorneau aussi?
Bigorneau également. J'ai un petit doute parce que une partie des bigorneaux sont pêchés en Méditerranée, c'est pas la même espèce, on appelle ça des bigorneaux Nassa, et de même qu'il y a aussi un cousin du bulot qui s'appelle le murex là-bas. Alors il y a deux, trois ou quatre sous-espèces, il y a le biou, le poivre, le murex qui se ressemblent toutes un petit peu et certains sont pêchés au chalut.
Ah.
Donc compliqué de savoir si c'est bien pêché au casier ou au chalut.
Donc, mais faire attention quand
globalement, on peut quand même y aller un peu en fermant les yeux. Là où on peut commencer un petit peu à pinailler ou à chercher un peu des informations, c'est sur la Saint-Jacques, évidemment. Et ensuite, il y a des coquillages qui ne sont aujourd'hui, à ma connaissance, pêchés que à la drague. La palourde rose, des glénans. Il y a des coquillages un peu moins connus. Le couillou kazakh, c'est vulgairement la couille de cheval en breton. Il y a le Vénus. Voilà, il y a certains coquillages. Aujourd'hui, moi, je ne connais pas d'alternative à la drague. Et parfois, il faut aussi reconnaître que les méthodes de drague pour certains coquillages sont des dragues à petite échelle sur des zones à sédiments très fins, des zones sableuses, où on peut considérer que l'impact de la drague est moins grand que sur un autre milieu, même s'il existe toujours. Voilà, donc j'ai souvent ce débat-là avec certains des pêcheurs poiscailles, et je pense qu'il faut pouvoir continuer à l'avoir, parce que souvent ces pêcheurs-là, dans leur équilibre financier à l'année, il y a une partie de l'année où quand même ils doivent draguer un petit peu parce qu'ils font de la Saint-Jacques, et l'autre partie de l'année, eh ben ils font de la ligne, ils font du filet, ils font du casier. Et aujourd'hui, beaucoup de pêcheurs sont quand même dépendants de la drague, jusqu'à ce qu'on trouve peut-être des méthodes plus vertueuses.
Et t'as pas parlé encore du couteau, mais le couteau, j'imagine qu'on fait gaffe aussi.
Couteau, j'aurais tendance à dire que là, pour le coup, faut vraiment faire gaffe parce que le couteau de plongée. Alors c'est marrant, couteau de plongée. Je sais pas si certains ont déjà pêché le couteau, on va à grand coefficient sur la plage. On trouve les zones où il y a deux petits points dans le sable et on met un peu de sel. Et puis le couteau va remonter et on l'attrape entre les deux doigts et c'est comme ça qu'on pêche. J'ai dit parler de la drague hydraulique en Écosse, qui est une méthode vraiment bourrine. Il y a aussi de la pêche en plongée en Écosse, qui est légèrement bourrine, où en fait les pêcheurs ont une espèce de câble qui va lancer des petites impulsions électriques, qui va sortir les couteaux.
Donc c'est une pêche électrique.
Et bim, 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 on récupère les couteaux ensuite en plongée, qui sont sortis du sable. Nous, chez Poiscaille, on bosse avec Nieves, Casterone, qui a en Camargue, et eux pêchent le couteau en plongée, mais d'une autre manière. Ils ont une petite piscette avec de l'eau très salée. Et en plongée, ils vont appuyer sur la piscette, sur les endroits où des spots à couteaux, et les couteaux vont sortir du sable, après le passage de la piscette. Et donc, eux, ils les ramassent comme ça. Mais donc, c'est une production, automatiquement, le couteau coûte 2 à 3 fois plus cher.
Oui. Mais comme la coquille Saint-Jacques.
Voilà, on est sur une pêche à beaucoup plus petite échelle. C'est plus du tout la même chose. Coquille Saint-Jacques, juste pour donner un exemple, un plongeur professionnel aujourd'hui, c'est 400 kilos par bateau, par jour de pêche. À la drague, c'est 1,2 tonnes, il me semble, en bête Saint-Rémy.
Ah oui, d'accord.
Donc, c'est quand même pas du tout la même chose. Et automatiquement, le prix s'en ressent.
Ouais, bien sûr. Mais après, c'est toujours dans la même logique de peut-être en manger beaucoup moins, mais de manger de bien meilleure qualité. J'imagine aussi que ça influe sur la qualité de la coquille et du couteau. Il y a moins de sable, parce que dans le drague, on se retrouve avec des coquilles pleines de sable, non?
Yes. On se retrouve avec des... Nous, c'est ce qu'on défend aussi un petit peu. On aime bien pouvoir appuyer nos arguments environnementaux, on va dire, par quelque chose de concret dans l'assiette. Et c'est vrai que pour la Saint-Jacques, on a cette chance-là d'avoir une coquille qui est pas sableuse. Donc, aussi bien on récupère la noix, comme tout le monde le fait, ça, a priori, il y a pas trop de problème. Mais au niveau de la barbe, qui est vraiment l'endroit où toute la filtration se fait, souvent, dans une coquille de drague, il y a plein de sable. Il y a plein de sable, alors qu'en plongée, la barbe est quasiment intacte. Et donc, la barbe, sans la rincer, souvent, ce qui peut diluer un petit peu le goût, on peut la cuisiner telle qu'elle. Et ça c'est assez extra, parce qu'en plus, ça a un goût assez génial, hyper différent de la noix. Et donc, nous, on aime bien dire aussi, chez Poiscaille, on propose les coquilles à décoquiller soi-même, mais aussi parce qu'on peut réutiliser la barbe en plus de la noix.
Ok, ma dernière question et je ris parce que je regarde le temps sur mon appareil et je vois que ça fait 1h20 qu'on parle.
Yes.
Et au début je t'ai dit est-ce que tu es aussi bavard que Charles Guirec, fondateur de Poiscaille, qui a été l'un des podcasts les plus longs. Ça me pose aucun problème parce que je trouve que tout était passionnant dans ce que tu nous as raconté. Est-ce qu'il y a des critères qualitatifs, enfin des signes de qualité comme on peut en trouver aujourd'hui dans l'agriculture de façon générale, type AOC, label? On a quelqu'un qui travaille chez nous aujourd'hui chez Ecotab qui m'a dit mais attends, il y a un producteur qui m'a contacté qui fait des huîtres bio, ça existe ça?
Ouais, alors du coup huîtres bio, huîtres diploïdes, donc pas triploïdes, qui peut se reproduire tout simplement. Donc je crois que c'est l'essentiel du cahier des charges de l'huître bio, c'est ça, au moins on est sûr d'avoir une huître diploïde. Alors par contre elle peut être diploïde et venir d'une écloserie. Donc potentiellement, il peut y avoir de la sélection génétique. Enfin, j'ouvre le débat là-dessus, si jamais il y a des experts ou quoi, ce serait intéressant de discuter. Je pense que la diploïdie, quand elle vient d'une écloserie, il peut y avoir de la sélection génétique dessus, ce sur quoi moi je suis pas hyper favorable pour les raisons que j'ai abordées tout à l'heure. Après, donc sur les signes de qualité, il en existe. Il y a même une AOC ou AOP, je me trompe toujours. J'ai ma copine qui travaille dans le vin, donc je sais jamais lequel on utilise.
Bah, c'est la même chose, qu'il y en a un qui est européen et il y en a un qui est français.
Voilà. Donc, on va dire AOP. AOP, il en existe une pour les moules de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel. Et ce signe de qualité-là, généralement, quand même, il y a en plus, pour une IGP, par exemple, il y a en plus d'une notion de localité, il y a souvent un cahier des charges, quand même, avec aussi, on attend du produit, certaines propriétés, on va dire, organoleptiques. Voilà, donc un certain taux de chair, un certain goût, etc. Cette AOP moule de Bouchot, moi j'en ai parlé tout à l'heure de l'exemple de la baie du Mont-Saint-Michel. Moi, je suis pas hyper intéressé parce que avoir autant de Bouchot concentré dans une seule baie, je questionne l'impact à long terme, voilà, sur la baie. Mais pour autant, il y a un signe de qualité. Alors, au moins, ça veut dire que on peut être sûr que les producteurs, a priori, sont d'accord entre eux pour le cahier des charges. Je pense gagnent plutôt bien leur vie, arrivent à valoriser mieux leurs produits que d'autres. Donc ça va plutôt dans le bon sens, j'aurais tendance à dire. Après, il existe aussi pas mal d'IGP. Marraine d'Oléron pour les huîtres, Belle Grandville pour les bulots de casier. Et ça, souvent l'IGP, ça restreint quand même beaucoup plus à la localité. Moi, je trouve dommage de dire elles viennent d'ici sans questionner, comme je disais tout à l'heure, la méthode. Voilà, donc je ferais beaucoup plus confiance à des ostréiculteurs qui me disent qu'ils ont adhéré au mouvement Slow Food, parce que là, il y a un vrai cahier des charges. Même au-delà de ça, il y a une philosophie.
Oui, bien sûr.
Que simplement me dire, il y a une IGP.
Donc les signes de qualité AOPA ou CIGP sont pas forcément hyper pertinents pour les coquillages.
Ils sont pertinents dans un sens de valorisation.
Oui, économique.
Voilà.
Mais pas environnemental. Ni
pas forcément.
Ok. Et le label bio, en revanche, existe que pour les huîtres ou pour d'autres coquillages?
Bio inexistant pour la pêche, dans tous les cas. Donc, que ce soit pour les poissons ou les coquillages ou les crustacés. Et pour l'aquaculture, il existe pour barres dorades. Il existe également pour les moules, je crois, à vérifier. Je suis plus très sûr. En tout cas, il a un cahier des charges très particulier. Dans le cas des huîtres, j'en ai parlé. Mais dans le cas du poisson, souvent, c'est plutôt, a priori, sur les aliments.
Les aliments donne, et la méthode d'élevage.
Voilà, les aliments et la densité d'élevage dans les cages. Ce qui, pour moi, de toutes les façons, n'est pas suffisant puisqu'on continue à faire de la pêche minotière pour nourrir des poissons carnivores, enfin piscivores. Je trouve dommage qu'on n'aille pas élever des mulets plutôt que d'élever des barres.
Je précise que la pêche minotière, c'est la pêche de poissons sauvages pour nourrir des poissons d'élevage.
C'est ça.
Qui est en général assez catastrophique parce que au chalut aussi.
Exactement. Et privation de quotas pour des petits pêcheurs.
Oui, tout à fait. Bah écoute, merci beaucoup Augustin, c'était passionnant. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, mais en tout cas ça a été le cas. Donc merci beaucoup.
Merci Fanny.
Merci d'avoir écouté Sur le grill des quotas. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que, comme nous, vous avez appris de nouvelles choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 sur 5, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Sachez par ailleurs que la musique de ce podcast est issue du merveilleux groupe engagé, le Caribou Volant. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'aller manger dans les restaurants écotables. À bientôt sur notre grille !